Bonjour à vous, bienvenue pour ce troisième après-midi donc, du banquet de l'été 2016. Ce qui nous sépare, ce qui nous relie. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première rencontre de l'après-midi Anne-Laure Amiyat-Chari, qui est géographe, qui est professeur de géographie à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France et qui s'intéresse tout particulièrement donc à la question des frontières et de la mise en question des frontières dans le bouleversement de notre monde contemporain. Elle a publié un livre tout à fait remarquable qui est paru au PUF, aux Presses universitaires de France en 2015 et qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?» où elle invite le lecteur à repenser totalement la notion de frontière face justement aux multiples bouleversements du monde, à ses déplacements constants, etc. La frontière comme ce qui sépare, ce qui relie sous un mode totalement nouveau. Par ailleurs, Anne-Laure a accompagné des expériences à la fois, géo-artistiques, on peut dire ça comme ça, et notamment un très beau projet qui s'est déroulé tout au long de l'année 2013, je crois, qui s'intitule « cartographie transverse au pluriel », qui a été tout un travail de représentation cartographique artistique avec un groupe de demandeurs d'asile et quelques géographes du même laboratoire, en quelque sorte. C'est un projet tout à fait remarquable. Je ne sais pas s'il va en être question, mais suspense. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci, Dominique. Alors, bonjour à tous, à toutes. Cher Dominique, à toute l'équipe du banquet, donc je vous remercie infiniment pour cette invitation. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être accueilli ici et de passer cette fin d'après-midi avec vous dans un lieu aussi évocateur. Alors, merci aussi de cette occasion de partager avec vous quelques réflexions sur la frontière, qui est un objet qui m'est cher depuis beaucoup d'années, depuis toujours peut-être. En fait, le titre de la conférence, Ces frontières qui nous traversent, mais très personnel. Ces frontières me traversent effectivement de façon multidimensionnel depuis sans doute toujours. Et je voulais partager cette expérience avec vous, d'autant plus que donc, ces dernières années, depuis 2 ans surtout, ces frontières sont sur le front de l'actualité, sur le devant des médias, et que l'on en parle d'une façon telle qu'il est parfois salutaire d'essayer de prendre un petit peu de recul et de poser des questions autrement. Alors, c'est forcément compliqué de vous parler de quelque chose que vous devez tous penser, connaître et déjà. Vous savez, vous pourriez tous me définir la frontière. Vous me parleriez sans doute de frontières naturelles et de frontières qui ne le sont pas, de frontières chaudes et de frontières froides. Et de tout cela, en fait, je veux parler pour les déconstruire un petit peu, pour vous montrer qu'une frontière, c'est autre chose qu'une ligne. Pour vous montrer qu'une frontière, c'est un dispositif relativement complexe de sens, de signification, de symbole, d'image. Et surtout, donc, face à un afflux d'images dans les médias, face à un afflux de commentaires de tout type, de slogans, eh bien, j'aimerais partager avec vous un début d'analyse. Alors, je voulais parler avec vous de cette, pourquoi donc passer cette fin d'après-midi à parler des frontières, parce qu'elle, c'est une notion complexe, à la fois conceptuelle et contextuelle, qui mérite en fait qu'on déconstruise un petit peu cette binarité conceptuelle et anthropologique. Vous l'avez vu hier avec Michel Agier, puisque les hommes en fait et les animaux d'ailleurs se construisent à l'épreuve des limites. Quand on parle avec des biologistes et quand on regarde avec les neuroscientifiques comment le cerveau construit sa perception de l'espace, eh bien, il faut aller buter contre des murs et des obstacles pour construire une grille de repérage dans l'espace. Donc la frontière, la limite, fait partie de nous-mêmes. La frontière et les limites aussi font partie des formes de définition de l'identité des groupes. Et pourtant, face à cette notion un petit peu atemporelle, on se trouve face à une réalité sociale, politique, qui est tout à fait contextualisable et contextualisée d'ailleurs, qui est un construit social, historique, qui, d'une réalité politique, idéologique, qui est finalement assez récent, et qu'on a tendance à lisser aujourd'hui, on a tendance à lisser ce passé moderne de la frontière, pour essayer en fait de nous faire entendre en fait ou gober si l'on veut le fait que tout ce qui concerne la frontière puisse être essentialisé et soit essentialisable. Donc en fait il s'agit ensemble de construire vis-à-vis de cette frontière contextuelle et conceptuelle de réfléchir au-delà de l'image de l'imaginaire très très classique de la frontière, le mur, la ligne, et d'essayer de déconstruire cela à l'aide d'un corpus en fait d'images et de représentations qui puissent nous faire, qui puissent déplacer notre regard, qui puissent me faire vous inviter en fait à déplacer votre regard, à construire la frontière autrement et notamment comme support de relations. Il s'agit de faire advenir ensemble la pensée d'une frontière mobile qui nous intéresse, donc parce qu'elle nous traverserait toutes. Donc, avant de vous montrer comment la frontière nous traverse, je vais vous expliquer pourquoi et comment la frontière se traverse. Et on terminera l'après-midi, cette partie d'après-midi à passer ensemble, autour des personnes qui ne peuvent pas traverser la frontière et des frontières qui parfois se referment sur nous et ne nous traversant plus, nous enserrent, nous enferment et nous empiègent. Il s'agit aussi de montrer que derrière tous ces discours sur la frontière, ce qui est intéressant quand on les débusque, c'est de percevoir en fait ce lieu non pas forcément comme un laboratoire, ce qui est pour les chercheurs en sciences sociales, mais aussi comme un symptôme politique. Alors pourquoi et comment mobiliser la question de la traversée par rapport à la frontière ? Alors par frontière, j'entends limite internationale, limite géopolitique, mais il y a bien sûr toutes sortes d'autres limites que l'on peut travailler au prisme de ce concept de frontière, de façon toujours plutôt métaphorique. Donc pour simplifier les choses aujourd'hui et cet après-midi, j'en resterai à la question de ces limites plutôt internationales. Mais dans la mesure où nous en faisons une expérience de plus en plus éclatée, de plus en plus individualisée. Vous verrez qu'en fait, ces frontières, ces limites internationales se déplacent bien au-delà des portes des pays et des postes frontières où on a l'habitude, où on avait l'habitude en fait de les rencontrer. Donc, il y a une contradiction historique et pratique fondamentale dans l'idée de frontières. Qui est le fait que les frontières, depuis le XVIIe siècle, aient revêtu de l'apparence d'une ligne, donc quelque chose de tout à fait facile à comprendre en apparence, mais d'une ligne imaginaire. Et finalement, l'expérience la plus courante que l'on peut faire de la frontière, très pratiquement, au-delà du fait de la voir sur une carte, c'est celle de sa traversée. On éprouve en fait le concept de frontière uniquement au moment où en fait on en fait l'expérience séquente, c'est-à-dire qu'au moment où on la traverse. Et cette traversée peut rapidement devenir une épreuve. Contrairement à tout ce que l'on imagine, il est très très difficile de dire où est la frontière. Il y a en 2011-2012, en fait, de façon assez amusante parce que concomitante, deux alpinistes sont partis à l'assaut, non pas de sommet, mais à l'assaut des frontières. John Arlin voulait faire le tour des frontières de Suisse, Lionel Daudet voulait faire le tour des frontières de la France, de façon non motorisée et de façon sportive, donc en suivant un delta qui s'était fixé très linéairement la frontière. Il s'est avéré que c'était impossible à faire sans GPS, parce que même un sommet d'une montagne, ça n'est jamais complètement pointu et ça ne fait jamais des chaînons, ça fait des tas de pierres, certes, mais ça ne ressemble absolument pas à la ligne, ça n'exprime en tout cas pas la linéarité des cartes. Donc en dehors de ces moments qui sont finalement liés à des exploits sportifs ou à des exploits artistiques qui sont de l'ordre de la performance, l'expérience que vous faites de la frontière, de façon très générique, la seule rencontre finalement que vous pouvez faire avec elle, c'est lors de la traversée. Pour ce qui est donc de la démarcation et de la localisation, je vous disais donc que ces alpinistes ne pouvaient pas savoir s'ils étaient sur la frontière sans sortir très régulièrement leur GPS et sans prendre des risques extrêmement importants. L'un s'est cassé la cheville parce que finalement ces frontières passaient sur des tas de cailloux relativement instables où personne n'était allé voir s'il était convenant ou pas de faire passer une frontière. Cela avait été dessiné en cabinet. Et du coup, aujourd'hui, finalement, de façon assez paradoxale, on est enfin en mesure de savoir où passent les frontières que l'on a dessinées sur des cartes depuis plusieurs siècles. Il y a d'ailleurs tout un business, tout un commerce de droit international qui consiste pour des bataillons d'avocats à aller éprouver sur le terrain, en fait, les lieux, les fleuves, les îles où les puissances coloniales, mais aussi les puissances métropolitaines ont véritablement fait passer les frontières avec des moments de révision. Vous ignorez peut-être, mais à l'heure actuelle, la France et l'Italie sont en cours de révision de leurs frontières officiellement avec l'invention tout à fait légale et officielle de quelque chose que j'avais conceptualisé de façon un petit peu idéaliste sous le terme de frontière mobile, puisque la fonte des glaciers en fait a fait bouger la frontière entre la France et l'Italie, entre la Suisse et l'Italie, pardon. Et qu'il faut donc aujourd'hui redéfinir précisément où cela passe. On est très loin des stèles, on est très loin des bornes, on est très loin aussi des... Donc on peut enfin régler ces grandes hésitations séculaires qui ont fait hésiter, par exemple, à la frontière du Royaume de France, issue du Dauphiné, et de la Savoie, qui ont fait durer pendant 4 siècles, en fait, le suspense de savoir si la frontière passait sur le ruisseau du Guier vif ou le ruisseau du Guier mort. Cela, donc, se traite à coup d'instruments de navigation réglés sur les satellites. Du coup, donc, cette frontière, on sait enfin où elle passe, mais on sait surtout que finalement, on essaye de la passer, on essaye d'en réguler le passage. Les expériences de passage et les contre-expériences de passage de la frontière sont toujours extrêmement liées aujourd'hui. Il y a souvent dans les mêmes familles, à la fois donc dans les régions périphériques, pauvres, où passent les frontières, donc dans les mêmes familles, vous allez trouver un garde-frontière et un contrebandier. C'était le cas à l'époque de Mandrin, ça l'est encore aujourd'hui sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Très récemment, un gendarme de la sécurité routière qui avait oublié d'éteindre sa webcam sur le dos de la voiture a été pris en flagrant délit en train d'aider son beau-frère à mettre de la drogue sur son pick-up de Border Patrol. Donc tout ça, ça se fait en famille. Il y a des gens de tous les côtés parce que quand on est sur place, en fait, et que l'on vit constamment dans le passage, eh bien, cette frontière est une ressource qui s'active dans un environnement par ailleurs assez similaire entre d'un côté à l'autre de la frontière. Le paysage ne change pas, ou très peu, ou en tout cas il se différencie avec le temps. Ce qui se passe, c'est qu'une frontière qui est donc une différenciation d'ordre politique et légal, c'est quelque chose qui met, selon les mots d'une de mes collègues géographes, de la distance dans la proximité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce mot de distance qui nous apparaît, qu'il faut analyser comme comme porteur d'une des transformations majeures, en fait, de la compréhension de notre monde globalisé. Ce monde globalisé fonctionne de moins en moins selon des modèles centre-périphérie qui opposeraient donc un centre tout puissant et des périphéries qui en dépendraient. Les flux de la globalisation font finalement advenir des périphéries qui sont de mieux en mieux reliées entre elles à d'autres centres que ceux dont elles devraient dépendre officiellement. Et qui fait émerger finalement, même sur le plan légal, des aménagements du droit. Les spécialistes de droit parlent de droit des confins, parlent aussi, pour ce qui est des environnements frontaliers, de droit fondant, de melting law. Il y a là des aménagements et des rapprochements extrêmement intéressants. Est extrêmement signifiant, en fait, du fait que, voilà, ces frontières qui étaient censées être loin de ceux qui les pensaient depuis les capitales, depuis les cabinets, qui les dessinaient sur des cartes, eh bien, elles nous sont offertes aujourd'hui dans une expérience de proximité renouvelée, de proximité qui ne repose plus uniquement sur une distance métrique. Cette expérience du passage, elle a été documentée de façon assez intéressante et interrogante par un artiste qui est aussi un hacker, qui s'appelle Heath Bunting, et qui, entre 2001 et 2004, a fait un catalogue, en fait, documentant les passages des frontières européennes telles qu'on pouvait les pratiquer sans rencontrer de postes de contrôle, donc dans une pseudo-clandestinité, puisqu'on était en plein espace Schengen et dans des frontières qu'on avait le droit de traverser sur les routes principales. Il a pris des chemins de traverse, il a utilisé des techniques de guérilla, et il en a fait un site web qui est assez intéressant, qui s'appelle Border Crossing, avec un X, ING, intéressant parce qu'en fait, il y retourne en fait les règles du contrôle et du flux, puisque c'est lui qui décide à qui il donne l'autorisation en fonction des adresses IP d'accéder ou pas au catalogue d'informations qu'il a donc fabriqué concernant les réalités frontalières. Donc ces frontières qui nous traversent, ces frontières que l'on a l'habitude de traverser, en fait, ce qui m'intéresse de voir avec vous aujourd'hui, c'est de voir comment de plus en plus ce sont des réalités sociales, politiques, culturelles qui se rapprochent de nous et qui nous traversent, qui traversent tout un chacun, quels que soient les lieux finalement où nous sommes. Et cela transforme radicalement en fait la signification de ces objets politiques. À partir du moment en fait où ce ne sont plus des réalités éloignées de nous, des réalités qui nous définissent faisant partie d'un ensemble à homogénéiser à l'intérieur de ses limites, elles créent des réalités politiques inédites que je vous propose en fait d'explorer ici. On a souvent dit des frontières qu'elles étaient des formes de palimpsestes. Donc vous savez, les palimpsestes, ce sont ces manuscrits lavés pour être réutilisés et sur lesquels on peut lire en fait les traces des écritures anciennes. Je pense que les frontières sont finalement des formes de palimpsestes vivants, plus ou moins conscients en chacun d'entre nous, qui gardons la mémoire en fait de tracés antérieurs et de tracés à venir probablement. Je ne vais pas vous parler plus que cela de l'initiative que mentionnait Dominique en introduction, qui est l'initiative de ces ateliers qui s'intitule Cartographie Traverse, que nous avons donc, qui sont des ateliers de cartographie dessinée, participative, menés avec des demandeurs d'asile et des migrants à Grenoble. Mais sachez simplement que ce titre, nous l'avons tiré finalement de la dernière des cartes que nous avons dessinées ensemble avec les personnes qui ont travaillé dans ces ateliers de artistiques en fait et participatifs à Grenoble, puisque après avoir travaillé pendant plusieurs mois avec eux sur les représentations en fait des voyages qui les avaient menés chez nous, voyages sur lesquels au cours desquels nous mettions l'accent en fait sur qu'ils avaient vécu d'un point de vue émotif et sans vérifier la véracité des points, des lieux traversés et des parcours empruntés. Ils ont imaginé en fait de faire une carte de synthèse qui ne serait pas une carte du monde, qui serait tout simplement une carte de la ville de Grenoble dans laquelle ils étaient arrivés, à l'usage en fait des futurs migrants, qui serait comme un guide en fait d'accueil pour les nouveaux arrivants, guide d'accueil sous forme de dessin. Et ce qui est apparu là, enfin, ils ont bien sûr localisé la gare, les points d'entrée, le SAMU social, la préfecture, etc. Ça ressemblait à quelque chose de l'ordre d'un jeu de loi à taille réelle. Ce qui nous a particulièrement frappé en tant que géographe, en fait, c'était que toutes les artères en fait qui reliaient ces lieux étaient remplies de flèches. Comme si en fait le voyage qui pour nous finalement avait pour terme Grenoble, ne se terminait jamais et qu'ils continuaient de transporter avec eux, en fait, cette expérience de la mobilité et cette expérience, en fait, du danger aussi et du fait qu'ils n'étaient toujours pas stabilisés. Alors, dans ce travail de cartographie traverse faisait partie d'une expérimentation, en fait, entreprise dans le cadre d'un collectif que j'ai contribué à faire vivre, qui s'appelle l'Anti-Atlas des frontières, qui est un collectif de chercheurs, d'artistes, et puis qui invite des professionnels des frontières de tous ordres, aussi bien des migrants que des professionnels du contrôle ou de l'industrie des frontières, pour les faire parler ensemble de ces réalités. Et nous avons mis en relief un certain nombre d'œuvres, et parmi celles-là, une vidéo assez évocatrice, en fait, d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Simone Koch, qui, en fait, trace et efface sur un tableau à la craie, sur un tableau noir, elle trace et efface à la craie, donc la trace des anciens tracés demeure, toutes les frontières de l'Europe et toutes les frontières de l'Afrique. Donc, travail formidable pour faire émerger cette mémoire que nous avons tendance à oublier, sauf quand nous parlons, en général, c'est pour en faire des blagues, de ces quelques personnes qui ont changé plusieurs fois de nationalité dans leur vie sans jamais déménager en Europe centrale, notamment au cours du XXe siècle. Pour faire mieux toucher du doigt finalement cette question de la traversée individualisée des frontières, il y a un travail extraordinaire qui a été mené cette dernière année par deux artistes donc sur le continent américain. Ces deux artistes sont quelqu'un qui s'appelle Marcos Ramirez, qui vit à Tijuana, qui est plus connu sous le nom de RE, et d'un photographe qui s'appelle David Taylor, qui lui avait d'abord entrepris, en fait, de photographier tous les monuments qui font la matérialité de la frontière États-Unis-Mexique, monuments qui, si vous les avez déjà vus, ont une forme d'obélisque assez marquée. Et il a commencé ce travail juste au moment où le mur était en train d'être bâti entre les États-Unis et le Mexique. Et il a vu, il a donc documenté sans le vouloir, c'est souvent comme ça que naissent les grands travaux photographiques, il a documenté, en fait, finalement, la perte de la frontière par les Américains, puisque les gardes frontières américains témoignaient dans toutes les interactions qu'ils pouvaient avoir avec eux, de la tristesse qu'ils avaient à ne plus voir ces monuments qui se retrouvaient du côté mexicain, puisque les États-Unis avaient désiré faire ce mur dans leur territoire, et donc ils se privaient finalement du contact avec la frontière originelle. Alors, ces deux hommes, en fait, ont décidé d'aller parcourir la première frontière entre les États-Unis et le Mexique, celle d'avant le traité de Guadalupe Hidalgo, celui qui a privé donc le Mexique de plus d'un tiers de son territoire, donc en remontant 100-200 km au nord de la ligne actuelle. Et donc, Marcos a fabriqué des mini-monuments en métal, qui étaient donc des plaques de métal qu'on pouvait plier, et ils sont allés, ils ont respecté de façon très très précise, suivi donc là aussi au GPS, plus ou moins, puisqu'en fait on avait ils ont repris les anciennes cartes pour pour en refigurer, en redémarquer le tracé actuel. Et ils sont allés donc suivre de façon très très précise ce qui aurait pu être la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et qui est un espace qui pose toute une série de problèmes aux Américains aujourd'hui, puisque vous avez une grande partie de la communauté états-unienne qui parle espagnol, qui n'est absolument pas immigrée, en fait, hein, qui est issue de la première colonisation espagnole de cet espace, notamment en Californie, et donc qui parle l'espagnol depuis le XVIe siècle, et non pas parce que ce sont des immigrés venus du Mexique. Et ils sont allés donc traverser ce territoire aujourd'hui états-unien, rencontrer les gens et leur porter finalement la frontière qui est en eux, avec un certain nombre de rencontres donc qui sont immortalisées par les images de David Taylor, et qui ont été aussi l'occasion donc de rencontres avec la population, qui ignorait bien sûr tout du passage de cette ligne. Donc il s'agit pour moi, avec vous, de désessentialiser la ligne initiale et ce qu'elle enveloppe et ce qu'elle n'arrive jamais à définir complètement en rappelant l'historicité de ses frontières. Et les pas de temps historiques dans lesquels elles se construisent. Il s'agit en fait, je le ferai très rapidement ici parce que c'est quelque chose dont je parle plus souvent, de vous rappeler tout simplement que ces frontières donc que vous imaginez ayant existé peut-être de tout temps sont finalement une réalité historique relativement récente, en tout cas pour l'Europe et puis qui se transmet, enfin qui dans le reste du monde de façon peu linéaire, mais assez relativement concomitante du phénomène colonial. Ce sont les frontières que nous connaissons, ce sont des frontières qui se construisent depuis le XVIIe siècle seulement, depuis les fameux traités de Westphalie, même si cette mythologie historique des frontières et cette historiographie, en tout cas mythologique des frontières, est à relativiser. En tout cas, c'est vraiment là qu'on fonde l'idée de frontières linéaires. Et depuis ce moment-là, en fait, cette réalité nous est apparue un petit peu plus proche, mais donc, je vous le disais, suffisamment lointaine dans un monde dominé par le paradigme de la sédentarité. Pourquoi est-ce que cette problématique des frontières et de ces frontières qui nous traversent revient de façon aussi violente aujourd'hui? C'est bien sûr à travers la question de la migration, de l'exil et du mouvement des personnes. D'une part, c'est aussi à propos de l'hybridité, des métissages, des mélanges culturels d'autre part, qui sont à la fois pour la question des migrations, à la fois pour la question des métissages, des réalités multigénérationnelles. Vous avez de nombreux textes qui vous montrent en fait que comme on le voyait à travers ces cartes que nous avons faites avec les migrants, mais sur des pas de temps beaucoup plus longs, une histoire de déplacement. C'est quelque chose qui ne se résout ni en une, ni en deux, ni en trois générations. C'est quelque chose qui dure très longtemps, notamment en témoigne un très beau roman de quelqu'un qui s'appelle Tiernansky, qui s'appelle Migration, justement, qui raconte en fait l'histoire longue des diasporas serbes en Europe orientale. Ce qui se passe aujourd'hui à travers cette question, donc ce renouveau de la question migratoire, peut-être moins dans les faits d'ailleurs que dans la symbolique et dans les discours, ce que l'on observe récemment et ce que j'espère aussi contribuer à déconstruire, c'est que ce n'est pas une crise des migrations, ce n'est pas une crise, c'est à la limite une crise des déplacements, un renouveau des guerres, puisque le pourcentage de migrants en tant que tel n'a que très peu évolué ces dernières années. C'est le nombre de déplacés, c'est le nombre d'exilés et de personnes déplacées par les violences qui est en recrudescence croissante. Mais ce retour, en fait, ce changement de focal opère sur nous, c'est le fait de se regarder soi-même non plus comme héritier d'une histoire sédentaire, mais comme héritier d'une histoire potentiellement mobile. Et l'habile, et de considérer finalement nos corps comme porteurs de ces traversées frontalières, que nous soyons directement des migrants ou pas, et que ces corps, que ce soit des corps d'ailleurs vivants, que ce soit des corps meurtris et parfois morts, soient porteurs en fait de cette mémoire du mouvement. L'une des personnes qui l'exprime de la façon la plus radicale et la plus forte en public, c'est un performeur qui s'appelle Guillermo Gomez Peña, qui a travaillé et qui est né là aussi sur la frontière États-Unis-Mexique, qui a contribué à fonder un atelier qui s'appelle l'atelier d'art frontalier, Border Art Workshop ou Taller de Arte Fronterizo. C'est un collectif qui est mieux connu en fait sous son acronyme bilingue. Cet homme, en fait, dès les années 80, la fin des années 80, au début des années 90, met en scène son corps comme étant le lieu de la frontière. Et avec un certain nombre d'artistes, donc ils contribuent à faire émerger un discours, un imaginaire sur la frontière comme lieu d'échange, comme lieu de lien, en cet endroit de traversée exemplaire qu'est donc la frontière États-Unis-Mexique. Et puis, le collectif Taller de Arte Frontera, BAFTAF, en fait, va continuer à exister. Mais Guillermo Gomez Peña va, lui, s'en détacher, dénonçant, en fait, le fait que ces artistes, ces collègues avec lesquels il travaillait, étaient en train de transformer les marges en centre, et qu'ils étaient en train de se regarder un petit peu trop le nombril. Et lui, il va essayer de porter cette réalité frontalière à New York, à Los Angeles ou ailleurs, continuer à faire de son corps, en fait, un lieu de manifestation de la frontière, et exprimer la façon dont cette personnalisation, en fait, du passage se vit. Alors, sans aller vers des œuvres peut-être aussi difficiles d'accès que la sienne, on peut aussi très simplement évoquer une série télévisée qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle The Bridge. Je ne sais pas si vous l'avez suivi dans les années 2011-2013, qui a eu une première itération en Norvège, entre la Suède et le Danemark, et qui s'est transportée ensuite, qui a été reprise entre les États-Unis et le Mexique, et qui commence sur un pont entre les frontières, pont sur lequel on trouve un corps, une femme qui a été assassinée, c'est le début de l'intrigue. Et en fait, quand la police arrive, police des deux pays, le corps, en fait, s'avère être deux corps, deux corps coupés en deux et raboutés par le meurtrier dans une mise en scène assez macabre, qui va du coup obliger les équipes d'investigation des deux pays à intervenir, à collaborer et mettre en scène le lien au-delà, enfin, dans la vie et dans la mort de cette réalité des frontières. Ce corps traversé par la frontière et ce corps finalement mis à l'épreuve par la frontière, au-delà donc de ces souffrances infligées par les difficultés du passage, ce sont aussi des transformations majeures que la frontière révèle dans le rapport que nous pouvons avoir à nos corps à travers la médiation de la machine, notamment à travers les modalités de contrôle. Ce que vous savez peut-être, ce que vous observez sans doute quand vous prenez l'avion, ce qui n'est pas toujours une traversée de la frontière, mais dont les modalités en fait reprennent et singent une grande partie de celles des modalités de contrôle de la frontière, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez un certain nombre de documentations à fournir qui sont le support d'informations biométriques sur ce que vous êtes. Biométriques, c'est-à-dire sur votre iris, sur vos empreintes digitales, etc., mais qui lient en fait ces informations biométriques à une série d'autres base de données sur vos pratiques d'achat, sur vos pratiques alimentaires, sur vos pratiques de mouvement. Et quand vous passez une frontière, en fait, ce que mouline l'ordinateur qui est derrière le douanier, ce sont des formes d'algorithmes qui décomposent et recomposent votre corporéité et votre identité, et finalement, à l'issue d'un calcul, disent qui vous êtes, mieux que vous-même, et vous autorisent ou pas donc à traverser. Alors, le principal problème de ce décor que je brosse avec vous, c'est bien, vous le voyez, des frontières qui n'opèrent plus du tout comme des lignes à l'extrémité de territoires nationaux, et des lignes qu'on pourrait ouvrir ou fermer, mais bien comme des réalités plus complexes, qui sont des réalités, des lieux finalement de tri des flux de la mondialisation, de filtres, et des frontières qui de plus en plus nous emprisonnent ou nous empiègent de façon parfois assez sournoise, puisque autant on arrive à le dénoncer et à le mettre en avant de la part Enfin, pour ce qui concerne en fait les plus défavorisés et les plus démunis d'entre nous qui sont ceux que l'on nous montre comme en souffrant le plus, ces frontières sont aussi des formes de pièges politiques pour nous. Et c'est du coup ce vers quoi je voudrais arriver sur cette dernière partie de la conférence. Donc les frontières, effectivement. De plus en plus, ou de moins en moins peut-être, sont de plus en plus des pièges à la fois spatiaux et des pièges à la fois temporels, et peut-être de moins en moins des lieux de passage, d'où le fait qu'elles nous traversent et d'où le fait peut-être qu'elles nous enserrent et qu'elles nous privent d'air. Alors, ce qui est assez paradoxal ici, donc ces frontières qui sont des pièges, ces frontières qui sont des lieux de finalement de fin du voyage, on le voit très bien et de plus en plus pour ce qui concerne les personnes qui ne sont pas dotées des papiers leur permettant d'exercer l'un des droits fondamentaux de l'homme, qui est le droit de la libre circulation à l'échelle de la planète, et qui, sous le nom donc de migrants illégaux, sont emprisonnés dans des lieux de rétention, dans des camps, où se suspend de façon absolument non définie temporairement leur existence. Ce qui est absolument paradoxal par rapport à cette façon de gérer la frontière que proposent aujourd'hui les États occidentaux, c'est la façon dont finalement ils se défont par la création d'un appareil législatif de plus en plus hétérogène, en fait, de la responsabilité de savoir ce que l'on fait avec ces personnes. Ces lieux de rétention, ces lieux d'enfermement, sont de multiples sortes. Ils forment une sorte d'archipel qui est une autre forme de la frontière, dans laquelle les gens savent quand ils rentrent, mais absolument pas finalement quand ils sortent, ni vers où ils sortent. Donc, il y a des textes en Europe qui ont augmenté la durée légal de séjour dans ces lieux de rétention jusqu'à 18 mois et plus. Mais le problème se pose, bien sûr, à l'issue de ce temps, de ce que l'on fait des personnes, sachant qu'on ne sait pas forcément d'où elles viennent, si l'on peut effectivement les renvoyer là d'où elles viennent, et comment le faire. Il y a une auteure qui parle pour décrire ces lieux d'un archipel des lieux de détention. Elle est partie pour cela de l'étude d'un certain nombre d'îles. Il étudiait au sens littéral et au sens figuré, qui fabrique en fait les contours d'une géographie des limbes, où les individus qui habitent ces lieux, finalement habitent des lieux de non-espace et de non-temps, qui sont des impasses en fait existentielles, durables. Cette personne donc qui a travaillé sur cet archipel de détention l'a fait à partir notamment du cas de l'Australie. Des mesures ont été prises dès 1992 et puis renforcées en fait à partir de 2001 pour mettre en place ce que l'Australie appelle sa solution pacifique. Non pas parce que ce serait l'antithèse de la guerre, mais parce que cela se passe effectivement dans des îles du Pacifique qui sont devenues depuis la fin des années 2000 des lieux de rétention ad aeternam, en fait, où les gens, notamment dans l'île de Noël, Christmas Island, sont détenus sans droit, sans accès à aucune infrastructure de santé. La question de l'accouchement, en fait, dans ces îles est extrêmement problématique et il y a des cas dramatiques très réguliers de personnes à qui on interdit, de femmes à qui on interdit l'accès au territoire australien, y compris pour accoucher, et de d'enfants qui naissent, si dit, dans ces îles, et de personnes donc qui se trouvent totalement empiégées dans la frontière. Alors cette histoire-là, bien sûr, ne concerne, on peut le, c'est en général ce qui est le point de vue des autorités que des minorités. En fait, ces minorités sont beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît dans la, si l'on considère tous ceux qui finalement s'auto-enferment dans la dérive de la frontière, notamment tous ceux qui, voulant en fait la traverser et n'y étant pas parvenus, se trouvent finalement en suspens dans des espaces qu'ils n'ont pas choisi d'habiter, que ce soit les rives de la Méditerranée ou de façon beaucoup plus imagée, à Tijuana par exemple, sur les bords du fleuve qui traversait la ville, mais qui est aujourd'hui asséché du fait du manque d'eau en Californie et en Basse-Californie. Eh bien, en fait, il y avait des canaux et des grosses tuyauteries où beaucoup de gens aujourd'hui vivent, pris au piège de la frontière, ne pouvant plus rentrer chez eux parce qu'ils ont trop emprunté pour la traverser, et proie directe en fait des réseaux qui cherchent à utiliser ces personnes pour bien sûr un certain nombre de trafics illégaux à travers la frontière. Mais au-delà de ce lien avec cette dérive vers la criminalité possible, c'est surtout une forme de sans-abri ou d'habiter suspendu qui est là particulièrement tragique. Alors, ceci dit, ce qui est paradoxal avec cette question de la frontière et de ce piège de la frontière, c'est que même quand on meurt dans la traversée de la frontière, il est très difficile d'attribuer la mort à la frontière elle-même. Et beaucoup des détracteurs, en fait, des campagnes d'ONG militant pour la prise de conscience, en fait, de la létalité des frontières contemporaines, font valoir que la plupart des morts ne sont pas morts sur la ligne, qu'il n'y a pas eu donc de bataille, qu'il n'y a pas de guerre, et qu'il n'y a pas grand-chose à voir, puisque finalement, on traverse que en essayant de passer, et on meurt rarement au moment où on franchit la ligne elle-même. Donc difficile d'attribuer les morts à la frontière elle-même, mais ceci dit, le piège est là et le piège montre à quel point l'espace de cette frontière, de cette limite, s'est élargi et s'est transformé en quelque chose qui est de l'ordre du réseau. Qui est de l'ordre du réseau qui relie les points d'un archipel de contrôle tout à fait visible pour ceux que nous voyons comme ou que nos systèmes politiques voient comme les indésirables et ce qu'il faut refuser à nos frontières, mais finalement qui nous concerne de façon beaucoup plus directe que nous ne pourrions l'imaginer si l'on pense en fait que ces systèmes politiques idéologiques sont mis en place uniquement pour contrôler l'immigration illégale. La frontière, en effet, aujourd'hui, est un symptôme politique, le symptôme d'une démocratie qui faiblit, en tout cas le symptôme d'une démocratie qui ne se définit plus par la défense des droits pour les citoyens, pour ces citoyens qui la définissaient au départ. Ce sont des choses que je ne suis pas du tout la première à dire. Étienne Balibar, notamment, a été le premier ou un des premiers à mettre l'accent sur le fait que ces frontières qui constituaient la couche extérieure en fait de nos démocraties était de plus en plus en train de devenir un problème au cœur même de notre univers politique, mais à mettre l'accent aussi sur le fait que ces frontières qui étaient donc censées définir un territoire et donc la base d'une citoyenneté étaient aujourd'hui des lieux qui, loin de nous protégés, devenaient des lieux en fait de mise à l'épreuve des hommes, des femmes, avec un ensemble de violences liées à la multiplication des flux de la globalisation. Ce qui se passe aujourd'hui est de façon assez inquiétante pour les spécialistes, difficile à transmettre par ailleurs, c'est le fait que pour gérer ce qui se passe à la frontière, les pouvoirs publics en France, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, dans les pays en tout cas qui cherchent le plus à garantir l'accès à leur territoire, eh bien on n'arrête pas de faire marcher la fabrique législative. On arrête, et la fabrique de textes, en fait, qui ne sont pas toujours législatifs, qui sont de l'ordre du décret, qui sont de l'ordre de l'exceptionnalité légale, pour multiplier les statuts. Et pour dire que si un tel ne rentre pas dans telle catégorie, eh bien on va immédiatement créer un autre statut pour permettre de bloquer telle ou telle personne, et donc pour remettre en question les textes fondamentaux au bénéfice, en fait, d'une individualisation légale du traitement, notamment des étrangers sur notre territoire, mais pas uniquement. Et c'est cette individualisation, en fait, des statuts qui est extrêmement peu visible dans les corpus dans les corpus législatifs globaux, qui me paraît sans doute l'enseignement est le plus problématique, en fait, de cette question de la frontière. Pour rebondir et pour revenir et pour sur une œuvre encore, une œuvre d'art contemporain, je voulais évoquer en fait le travail mené par un artiste brésilien encore entre les États-Unis et le Mexique, qui est vraiment un berceau en fait et un lieu de stimulation des imaginaires, où il avait mis en place en fait dans ce lieu qui était qui s'appelle encore le Parc de l'Amitié, qui était un lieu de rencontre donc entre Mexicains et Américains de part et d'autre de la frontière, qui est souvent mise en scène, montrée dans les films, dans les documentaires, etc., où la frontière et la barrière aujourd'hui se jettent dans la mer. Et en 2001, en fait, Valesca Soares avait accroché sur les grilles de la frontière, qui n'étaient pas encore aussi hermétiques qu'elles le sont aujourd'hui, des miroirs, en fait, qui étaient des miroirs réfléchis. Donc, quand on regardait vers l'autre, on se voyait soi-même, sur lesquels étaient gravés des extraits des villes invisibles de Calvino, et qui mettaient en scène le fait que quand on essayait de regarder l'autre, eh bien, on se rencontrait soi-même, et on était finalement face à ses propres réalités, face à ses propres contradictions que les frontières donc mettent en scène et nous projettent à nous-mêmes. Vivre dans les régions de frontières veut dire pour toi, nous dit Gloria Anzaldúa, qui est une poétesse, encore une fois, de cette région États-Unis-Mexique. Dans les régions de frontières, tu es le champ de bataille, tu es chez toi un étranger, tu es blessé, perdu au combat dans l'action. Pour survivre dans les régions de frontières, tu dois vivre sin fronteras, être un carrefour. Gloria Anzaldúa, c'est une poétesse qui a été la première à proclamer quelle était la frontière, que la frontière la traversait dans toute sa violence, parce qu'elle était issue de ces rencontres culturelles entre le Mexique et les États-Unis, parce qu'elle était aussi porteuse d'une sexualité lesbienne qu'elle revendiquait, parce qu'elle revendiquait aussi cette identité de Chicano, et parce que elle a été une des personnes à écrire de façon extrêmement suggestive sur la frontière, dans deux langues, en fait, les deux langues qui étaient la sienne. Elle passe indifféremment de l'anglais à l'espagnol, comme façon de montrer, en fait, qu'on ne peut pas parler de la frontière de façon univoque. Alors, pour conclure et pour vous amener peut-être vers une forme de débat, je voudrais peut-être revenir sur le fait que la ligne, bien sûr, n'est pas effacée, que derrière ces filtres, derrière ces réseaux, derrière ces dispositifs complexes, il reste des droites, des courbes, qui gardent d'ailleurs un potentiel imaginaire et un potentiel d'alerte. On peut en faire des tas de choses de ces lignes, notamment imaginer ce qu'il y a derrière la carte, ce qu'avait fait un collectif d'activistes palestiniens, en reprenant sur le terrain, en allant voir précisément ce qui se passait sur le terrain, là où passaient les lignes des accords d'Oslo, Et, donc à Accord d'Oslo qui avait été signé avec un gros stylo à plumes de ceux que possèdent les dirigeants de ce monde. Et donc ils faisaient un trait assez épais sur la carte. Et donc à l'échelle, ça faisait une bande de 20 mètres. Ils ont fait tout le tour des zones A, B, C, D pour voir ce qui s'y passait. Donc la ligne elle-même reste un lieu potentiel d'alerte et un lieu peut-être aussi de résistance à partir du moment où on l'investit de façon inédite. Mais surtout, vous dire effectivement, partager avec vous le fait que la question de la frontière, on ne s'en débarrasse pas si facilement, qu'elle est partout. Un directeur adjoint de la police aux frontières nous disait de façon tout à fait assurée que une bonne frontière, ce sont de bonnes bases de données. Et effectivement, la frontière, sans doute, elle commence déjà dans votre téléphone portable. Une frontière, c'est donc bien plus qu'un enjeu théorique aujourd'hui pour nous tous. Cette fonction de protection qu'elle pouvait avoir, on utilise souvent la métaphore de la peau pour parler de la frontière. C'est une métaphore que je trouve un petit peu simpliste, mais elle a l'avantage en fait de revenir sur l'idée que effectivement cette frontière qui était censée mettre les populations à l'abri d'une violence extérieure aujourd'hui est un lieu de prise directe avec la violence de la mondialisation. C'est un lieu aussi de mise en évidence des inégalités de notre expérience aux frontières, inégalité du passage, mais inégalité aussi de nos facultés d'adaptation, de nos ressources par rapport à ces multiples passages de frontières, ne sont pas les plus démunis ceux qu'on croit. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui qu'on puisse continuer aujourd'hui à faire l'éloge des frontières. Je ne pense pas qu'il soit aussi facile que cela avec les no borders de s'en défaire complètement. Mais ce que je voulais simplement vous proposer pour terminer, c'est de sortir d'ici en pensant qu'une frontière, ça ne se ferme pas, que c'est toujours quelque chose qui s'ouvre et se ferme en même temps. Qu'on ne peut qui jouer à saute-mouton par-dessus la ligne. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.